Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Et bonjour cher Liselotte, bonjour à tous les auditeurs ce matin. Ah, les municipales. Encore des élections qui confirment les tendances que nous observons depuis des années, à savoir la montée d'un patriotisme fervent et le grand remplacement, qui, dans de nombreuses villes, dicte le choix des électeurs. Mais la soirée de dimanche a quand même été assez tendue, et certains ont vraiment paniqué, en voyant fondre leur score au fil des heures. Ce qui rendait le décompte plutôt difficile, comme l'illustre cet autre sketch des Inconnus.
C'est bon, le quotidien est bon.
Le quotidien est bon.
Tu vois, ça, alors tu prends 25, tu multiplies par 2, ça fait 50. Ensuite, tu prends 3, tu multiplies par 7, ça fait 33.
Ah non, ça fait 21, ça fait 21.
Non, laisse faire, ça fait 33.
Ah non, non, ça fait 21.
Bon, allez, 25, allez, 25.
Non,
c'est
pas
bon.
25,
allez, 25,
c'est
25,
pas...
25, tu prends... Mais 25. 25 multiplié par 50.
Mais non, c'est déjà utilisé 25.
Mais comme je l'ai dit, le résultat de ces élections est aussi très inquiétant. Malgré le meurtre de Quentin, le 7 octobre, les multiples scandales que je ne vais pas lister par manque de temps, LFI parvient malgré tout à percer au fil des scrutins, d'après l'analyse d'un sondeur.
Ce qui est incontestable factuellement dans ce qu'on commence à bien voir ce soir, c'est qu'il y a une poussée de la France insoumise, notamment dans les villes de plus de 100 000. Et il est plus que probable que la France insoumise ait réussi son pari de mobiliser les catégories abstentionnistes, notamment les jeunes et notamment les quartiers populaires où il y a aussi une forte concentration de personnes issues de l'immigration maghrébine. C'est ça une des coalitions que souhaite la France insoumise. Et les municipales sont un petit test de vérification de la pertinence de cette stratégie, qu'on a appelée stratégie Gaza à d'autres moments. Ça semble fonctionner.
Ça semble fonctionner.
C'est une français honteuse ce que vous dites.
De quoi ?
Parler de stratégie Gaza, vous devriez avoir honte.
Ah bon,
je vais parler d'un génocide en fait.
Les, on va pas ouvrir ce dossier. C'est une analyse d'experts qui tend à montrer que vous êtes en dynamique.
Louis Bayard, pas content. Hein. Stratégie Gaza, quartier populaire, grand remplacement. Appelez ça comme vous voulez, mais l'idée est là. Le combat politique se mènera maintenant sur deux fronts bien distincts. Et la journaliste de gauche Isabelle Saporta est une des rares à l'admettre sur LCI.
Non, mais c'est la nouvelle France
nouveau,
contre la France
c'est
blanche.
C'est même un peu démago. Mais on va, bon,
bah, c'est démago, mais
on
la
va relativiser par là. Quoi,
la
par
partition
le contenu.
Idéologique, oui. Elle est là, Jean-Michel. Et on ne va pas faire semblant de ne pas voir. C'est la nouvelle France contre la France blanche. Donc, ce qui s'installe là, c'est le débat, excusez-moi, de la présidentielle.
Et quand on se demande comment certains candidats peuvent se faire élire et réélire après une gestion calamiteuse, on peut se rassurer en constatant le profil des électeurs, notamment des grandes villes, où leur esprit est particulièrement gangréné par le gauchisme, comme le prouve le youtubeur Golden Boy.
D'où l'importance de réguler qui rentre et qui sort. Sinon, on laisse rentrer en plus des terroristes si on régule pas.
Et quel est le problème avec les terroristes? Bah non.
Faut retirer ce que tu viens de dire, là.
Bah non, juste... je veux dire que...
Tu retires pas ce que je viens de dire? Tu vois pas le problème avec les terroristes?
Ce que je veux dire, c'est plutôt que...
Et puis ces municipales auront permis à certains journalistes comme Nathalie Saint-Cric, dont le fils, le mari et le beau-frère étaient tous en direct à 20h dimanche soir, de dire ce qu'elles pensent vraiment de candidats comme Éric Ciotti.
Beaucoup, Alexandre Perrou, je vous interromps. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice.
Alias Benito.
Encore un bel exemple de la neutralité du service public. Alias Benito, référence évidente à l'ancien dictateur italien, une faute qui, très vite, a été soulevée par les internautes, et la journaliste a dû s'excuser.
Nathalie Saint-Cric, vous vouliez nous faire une petite mise au point avant qu'on parle de Marseille.
Alors, je voulais présenter mes excuses à M. Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure à l'antenne, juste avant son intervention, des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement de ma part. Donc, je présente mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs.
Merci. À vous, allez.
Mais cela n'aura pas suffi. Et Nathalie Saint-Cric ne sera pas présente à l'antenne pour le second tour.
D'ailleurs, Louis, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais elle avait un sourire narquois en s'excusant.
Exactement.
Elle était plutôt en train de lire une note de service que présenter des excuses
sincères. Ça se voit légèrement. Encore des questions pour le député Charles Lalonde pour la commission d'enquête. Et donc, elle ne sera pas présente pour le second tour. Quelle tristesse ! Elle ne pourra pas commenter la défaite annoncée du maire de Nice, Christian Estrosi. Déjà empêtré dans une affaire de tête de cochon et qui doit maintenant mettre sa casquette de gauchiste pour espérer battre Ciotti, admirer cette prestation qui ferait presque pitié.
Différentes cultures qui font partie de notre cité et qui font aussi leur richesse et sa richesse, parce que j'ai toujours veillé à ce que sur les bancs de l'école, quelle que soit l'origine culturelle, l'origine identitaire de chacun, permette de donner une égalité des chances, une équité à chacun pour leur permettre d'arriver au meilleur niveau et se hisser au meilleur niveau de la République française pour pouvoir exercer les plus belles fonctions qui soient.
C'est beau. Mais au-delà des défaites annoncées, il y a aussi les victoires qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Sarah Knafou à Paris, par exemple. Certes, elle fait moins qu'annoncé et a même décidé de se retirer, mais il ne faut surtout pas sous-estimer son score, selon cet autre sondeur.
Sarah Knafou, qui réunit 10% des suffrages à Paris au premier tour d'une élection municipale, c'est un vrai phénomène électoral. Parce qu'en fait, c'était un territoire dont on pourrait considérer que Paris était un des endroits où, en fait, où le vote à l'égard de la droite était le plus faible de France. Là, aujourd'hui, vous avez, malgré tout, une assise qui est forte de sa part. Le deuxième aspect, elle était très, très peu connue, encore au mois de décembre ou au début du mois de janvier. Et d'ailleurs, elle avait conditionné son départ en campagne, si jamais le budget était adopté et qu'il pourrait y avoir une vraie campagne parisienne, elle pourrait être amenée à pouvoir en profiter. Donc elle a déjà, même s'il y a un écart entre le souhait qu'elle pouvait espérer, ou en tout cas les attentes qu'elle pouvait, sur lesquelles elle pouvait se compter, et le score réel, un score qui est un score qui fait que globalement, son pari, à nos yeux, apparaît comme étant entièrement rempli. Un, elle est présente au deuxième tour d'une élection municipale et on parle d'elle. Deux, elle va forcément compter dans la vie politique nationale au cours des prochains mois ou des prochaines années. Et c'était indéniablement un de ses objectifs secondaires.
Et face à ces résultats qui les inquiètent, la gauche n'a pas perdu de temps. On le savait, tout le monde le savait, et pourtant, ils nous ont fait croire qu'ils ne recommenceraient jamais. Mais ils l'ont fait. Les alliances PS, LFI se produisent absolument partout pour sauver les meubles. Au mépris total des mensonges, pardon, des dernières déclarations du patron du PS, Olivier Faure.
À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise.
Quel charisme. Non seulement Faure nous prend tous pour des imbéciles, mais il se permet en plus de donner raison à Mélenchon, qui, dès le 4 mars dernier, avait dit ce qui allait se passer.
Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors, tout le monde entend, ah, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent qu'il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire, aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis.
On peut reprocher beaucoup de choses à Mélenchon, mais rares sont les politiques dotées d'autant de cynisme et qui n'hésitent pas à le crier sur tous les toits. Cela n'empêche, ces ralliements interrogent. Même les journalistes sont bien obligés de constater ces revirements absurdes, comme Olivier Truchot sur RMC.
Pendant des semaines, on a parlé de la jeune garde, de collaborateurs d'un député insoumis qui sont aujourd'hui accusés de meurtre, qui sont d'ailleurs en prison. Ce député Arnaud est toujours en fonction. Jean-Luc Mélenchon le soutient la jeune garde qui est donc accusée d'avoir tué quelqu'un dans la rue. Et finalement, tout ça, ça passe crème. Ce qui compte, c'est de battre Jean-Luc Moudin qu'à Toulouse, ou le candidat de Besançon, qui ne sont pas des gens d'extrême droite.
Oui, mais Mélenchon qui est sur les tracts. Hein.
Non, mais je veux dire que la gauche. Alors moi, très bien. Alors dans ce cas là, dans ce cas-là, on s'en fout des principes, des valeurs, etc. Mais il ne faut pas nous les mettre dans la gueule à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois jouer avec les valeurs, ah, c'est terrible, etc. Et quand on a peur de perdre son steak tout d'un coup, s'asseoir dessus, dire bah, c'est pas grave, ce qui compte, c'est les alliances.
Oui, mais
il y a un double discours qu'insupportable.
Oui, mais
Olivier Faure, il nous prend pour des cons.
Là, tu parles de l'IFAN, mais moi, je te parle des gens sur le terrain.
Erwan et les autres.
Erwan te le disait, en fait, les gens, ce qu'ils voient, eux, c'est ce que le mec qui est en face d'eux. Et en face d'eux, sur le track, il n'y a pas Mélenchon, et en face d'eux, ils voient quelqu'un d'autre qui représente les
Jean-Luc Moudin, que ça fait plus peur que la jeune garde. Ok, d'accord.
Soit il gagne, soit il refuse la défaite. C'est simple. Certaines figures de gauche, comme Guillaume Meurice, se permettent même de faire la promotion d'un livre sur le sabotage. Au cas où. On ne sait jamais.
J'entends partout, oui, les nazis vont arriver, les nazis sont de retour, Bruno Retailleau a repassé sa chemise. Bon, alors, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je ne donne pas mon avis, vous savez. J'ai parlé de nazis une fois, bon, problème. Donc, je me dis qu'au cas où quand même, je vous signale la sortie de ce livre qui s'appelle « Saboter ». C'est un livre qui est en fait un manuel de sabotage qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'est les Américains qui avaient écrit ça à l'époque. Et c'est du sabotage domestique, du sabotage de la vie quotidienne à portée de tout le monde. Voilà. Il est remis dans le contexte historique par un journaliste qui s'appelle Jean Guinel. Et j'ai fait la postface, j'ai un petit peu updaté le process, comme disent bah, les connards finalement, voilà, en donnant des petites techniques un petit peu plus actuelles.
Inutile d'imaginer ce qui se passerait si un militant de droite avait sorti et fait la promotion d'un tel bouquin. En tout cas, merci à toutes ces alliances qui se sont multipliées sur tout le territoire et pour le plus grand plaisir des habitants, comme en Seine-Saint-Denis.
On espère qu'il va désarmer la police, qu'il va enlever les caméras, qu'il va enlever tout ce que Anota a fait de mal à cette ville. Rénover les logements, baisser les loyers, être de gauche quoi finalement.
Le PS s'allie donc une nouvelle fois avec cette gauche violente et qui a un sérieux problème avec la liberté d'expression. Prenons l'exemple de Margot Medcourt. Candidate gauchiste à Nantes, son nom ne vous dit sans doute rien, mais son visage peut-être. Elle ne pèse que 5% aux dernières élections municipales, mais se permet de chasser les journalistes qui ne lui plaisent pas, comme ici avec Vincent Lapierre.
Bonjour, je fais un reportage.
Oui, je sais, mais je sais aussi qui vous êtes.
Et alors ?
Et pourquoi vous venez ici ? Vous allez parler aux gens ? Vous allez juste parler en mal des gens qui vivent ici ?
Pas du tout. Je vais suivre Nicolas, qui fait une distribution alimentaire.
C'est qui Nicolas ?
Bah, il est là-bas dans son camion et il fait une distribution alimentaire.
En fait, on sait très bien à quoi servent vos reportages. Moi, je pense que c'est mieux que vous veniez pas, puisque ça sert à rien. Après, vous êtes en train juste de salir l'image de cette ville et en plus, vous salissez l'image des gens qui vivent dans les bidonvilles. Donc vraiment, vous n'êtes pas le bienvenu ici. En
D'accord,
fait.
Bah écoute, je prends note de votre avis.
Bah non, bah on va rester du coup pour voir ce que tu fais.
Ok, bah je vais aller rejoindre Nicolas.
Vous sentez cette morgue. Cette morgue moralisatrice d'une femme se croyant investie d'une mission divine pour faire bloc contre la méchante extrême droite armée d'un micro pour interroger des migrants. Mais elle ne s'arrête pas là et vient même faire la leçon aux bénévoles qui distribuent de la nourriture et qui ont eu le toupet de faire rentrer la bête immonde en plein cœur du bidonville de Nantes.
Donc toi, tu t'es investi d'une mission de...
Non, c'est toi qui as une mission, là. C'est toi qui as une mission, là.
Alors qu'ils savent même pas, qui c'est.
Et c'est pas une question de savoir qui c'est.
Bah si, bien sûr que si, c'est une question de savoir qui c'est.
C'est une question qu'ils puissent sortir.
Non, je suis désolé, mais tu m'as aidé avec les gens. Ah, tu vas les aider avec Vincent Lapierre. Ça va pas ou quoi?
S'il y a une visibilité, moi ce qui compte, c'est que la visibilité soit faite pour qu'ils puissent avoir dire ce qu'ils ont à dire en fait, raconter leur histoire.
Mais ici, il y a des gens, il y a des centaines de personnes ici, ils sont allés manifester
pour parler de leurs conditions de vie matérielles. T'étais là ou pas ce jour-là? T'étais là pour les soutenir?
Non,
mais lui,
c'était
pas
là. Pas partout,
et
de, en fait.
Bah, la visibilité.
Vous, est-ce que vous faites des alimentaires pour les gens dans le besoin?
Mais moi, je fais pas d'aide alimentaire. Non, mais attends, il y a des gens, ils font des trucs, ils s'engagent politiquement, ils s'engagent politiquement sur des trucs. Toi, t'es pas là et tu viens comme ça avec un mec.
Non, parce que moi, je parle pas de politique, je suis là pour juste aider.
Mais tout est politique, arrête de te moquer de moi.
Non. Tu vois, en fait, elle est dans un truc où ça l'abuse.
Elle veut pas, elle veut pas. En fait, en France, c'est compliqué. En France, il y a...
Moi, je ne connais pas la politique. Mais je ne sais pas.
Je t'ai dit, moi aussi.
Moi, ce que je veux, c'est vous donner la parole, que vous montriez comment vous vivez.
Voilà leur méthode. Chasser les journalistes à coups de pompe, quand on ne pèse que 5%. Mais cette violence locale n'est que le reflet d'une violence institutionnelle bien plus large. Si à gauche, on chasse les journalistes dans les rues de Nantes, l'Union européenne, elle, se permet carrément d'annuler des élections si le résultat ne convient pas. Philippe de Villiers le dénonce.
Tout ça ne serait pas si grave si parallèlement... Van der Leyen et Macron n'avaient pas déjà lancé l'idée que les élections de Hongrie seront annulées, comme celles de la Roumanie l'ont été. Petite parenthèse, il y a un tribunal, une cour d'appel en Roumanie qui a dit que c'était truqué l'élection. Enfin, l'annulation de l'élection. L'annulation de l'élection de quelqu'un qui était souverainiste et eurosceptique, Georgescu. Et donc là, ils vont refaire le coup de la Roumanie, en Hongrie, si jamais Orban gagne. Mais c'est officiel.
Je conclus en laissant la parole à Pascal Praud, qui, parfois, trouve les mots justes.
Et il se croit malin, intelligent, et il donne des leçons, avec une morgue telle, et avec une désinvolture folle, à dire bah, « je crois qu'on s'est trompé ». Mais qu'il se barre ! Qu'elle se barre, Madame von der Leyen ! Qu'elle parte ! Qu'elle parte !
Qu'elle parte et qu'ils se barrent tous. Un slogan aux allures de vœux pieux, mais qui peut-être pourrait prendre effet pour le second tour de ces municipales. Réponse dimanche.
Voilà. Merci Louis.
Ligne droite, l'analyse.
On poursuit avec l'analyse de Xavier Van Liert. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour les autres.
Je suis comme Bonjour d'habitude Richard. Avec Richard Decez également.
C'est Bonjour ça. Xavier.
On va parler des municipales et donc plus précisément des enseignements que vous tirez de cette séquence politique, Xavier Van Liert.
Oui, nous allons faire ça ensemble parce qu'en fait, depuis dimanche soir, je suis un petit peu frustré parce que j'ai l'impression que dans dans la masse des analyses qui ont été produites, eh bien, il n'y a pas tant de capacité à dégager de grands axes. Je m'explique. Alors évidemment, c'est vrai que c'est compliqué d'analyser des élections municipales. C'est pas qu'une élection présidentielle. Par nature, une élection municipale s'est éclatée. On le rappelle, il y a plus de 33 000 communes en France. Une prime au sortant, une abstention souvent importante qui frôle 57%, je crois, dans les petites villes, où l'offre politique est fracturée en une myriade de triangulaires, de quadrangulaires, il y a même eu des sexangulaires. Et donc, évidemment, il est tenté de tout ramener au local, de dire qu'il n'y a que des spécificités et qu'il n'est pas possible de dégager de grandes lignes de force. Alors évidemment, c'est frustrant, c'est très frustrant, et on a même un peu l'impression quand même que c'est de l'enfumage, c'est-à-dire qu'on a que la surenchère d'argusie technique, l'obsession pour le micro-local ou pour les jeux d'appareil n'est qu'une manière polie de détourner le regard de l'éléphant qui trône au milieu de la pièce, une façon de noyer l'essentiel sous la profusion de détails. D'ailleurs, une observation plus générale, on a un peu quand même le sentiment depuis plusieurs années que les commentateurs médiatiques ne sont plus là justement pour décrypter le réel et le faire émerger de l'actualité, mais au contraire qui sont plutôt là pour l'enfouir sous une multitude d'argusies pour rendre le réel justement inintelligible, pour rendre le monde inintelligible et le cacher dans une sorte de brouhaha savant. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est que nous essayons de dégager ensemble, tous les trois, des lignes de force de l'ensemble des données nées de ces élections municipales. Mais on va s'appuyer quand même sur un moment assez particulier, une citation qui a émergé comme ça au détour d'un éditorial de RTL et qui est due à Isabelle Saporta. Peut-être vous en avez déjà parlé ce matin, tant sa saillie tranchait dans le brouhaha des analyses. Donc je vous la recite. Isabelle Saporta, elle, voyait une ligne de force dans le résultat des élections du premier tour des municipales, et c'est la suivante. Une France, disait-elle, coupée en deux, entre d'un côté une France blanche, incarnée par ceux qui auraient peur d'être grands remplacés, autant dire le RN, face à une gauche insoumise qui n'essaye même plus de combattre cette idée de grand remplacement, mais la fait sienne. Évidemment, ça avait suscité une certaine stupeur sur le plateau, et on le comprend, puisqu'elle utilise tous les mots-clés qu'il ne fallait pas utiliser. Grand remplacement, France blanche, LFI qui serait pour le grand remplacement. Tout le monde s'est évidemment pincé le nez. On est reparti dans oui, mais non, d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin bref, il fallait passer son chemin, retourner dans le brouillard cotonneux, protecteur et douillet de la complexité duveteuse. Mais ça ne vous a pas échappé, nous ne sommes pas sur RTL, nous sommes sur Radio Courtoisie, nous n'allons donc pas procéder de la sorte, et au contraire, prendre au sérieux cette proposition d'Isabelle de Saporta, examiner sa pertinence, et c'est ce que je vous propose donc de faire ce matin pour structurer notre progression dans l'analyse de ces élections, en discutant donc sa proposition. Alors je lance le bal, première réalité mise en avant, une France coupée en deux. Alors, je crois qu'on peut donner raison à Isabelle Saporta, parce que les élections municipales de 2026 ne dessinent à l'évidence pas une France modérée, avec un vaste bloc central, et c'est une, en quelque sorte une vraie rupture, ou plutôt une vraie confirmation. En effet, durant des décennies, la France a été, on le sait, gouvernée au centre, par des forces centristes, il y avait une sorte de vaste centre, partageant un socle de convictions communes, délimité d'ailleurs par ce qu'on appelle le cercle de la raison. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? La mondialisation heureuse, la diversité heureuse, l'Union européenne comme horizon commun, etc. Alors ce socle était autrefois extrêmement vaste, puisqu'il pouvait même se payer le luxe de se séparer entre deux hémisphères. Un hémisphère gauche structuré par le Parti socialiste et un hémisphère droit structuré hier par le RPR et l'UDF, ensuite par l'UMP et aujourd'hui par les LR. Mais ce centre, on le voit, n'a cessé de rétrécir, et à mesure qu'il a rétréci, il a en quelque sorte fusionné avec le bloc macronien, qui avait déjà pris en compte ce rétrécissement. Il disait, il faut rassembler les forces de ce bloc commun en une seule force, qui montrait déjà en quelque sorte, son rétrécissement. Alors, au municipal, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ce centre a quasiment disparu, en réalité. C'est la descente aux enfers. Déjà, le bloc gouvernemental, les candidats étiquetés majorité présidentielle, qui est en réalité une minorité présidentielle, eh bien, sont parfaitement absents. Et on en est au point, quand même, où, d'un côté, on voit la montée en puissance lors de ces municipales, au contraire des forces dites plus radicales, les fameuses « extrêmes », entre guillemets, dénoncées par ce bloc central. D'une part, à gauche, la montée en puissance de la France insoumise, et sur la droite, la montée en puissance du Rassemblement national, avec quand même, à mon avis, une vraie différence, et ce sera, je vous propose que ce soit notre premier point de conversation, c'est que à gauche, on prend acte de la montée de la France insoumise. La soumission du PS à la France insoumise signifie en quelque sorte que sur le côté gauche de l'échiquier politique qui prend une place de plus en plus importante, eh bien, on a pris acte que la force structurante ne sera désormais la France insoumise, et ça se traduit par des accords électoraux qui vont renforcer cette dynamique, tandis que du côté droit de l'échiquier politique, on se refuse toujours, envers et contre tout, à prendre en compte que la force motrice sur la droite, c'est bien le Rassemblement national, et ça se traduit par la volonté, par exemple, de DLR de Bruno Retailleau d'exclure tout candidat qui pactiserait avec le Rassemblement national. Tant et si bien qu'on se retrouve dans cette situation où le bloc central fond, ne cesse de fondre, au point qu'il disparaît même presque du paysage, mais où dans cette nouvelle configuration, ce nouveau clivage opposant la gauche et la droite, eh bien, il y en a un qui se met en ordre de bataille autour des forces les plus dynamiques, en l'occurrence LFI, tandis que de l'autre côté, eh bien, du côté de la droite, de le côté des gens qui refusent le grand emplacement, puisque c'est la ligne de fracture désormais, c'est la ligne structurante du paysage politique, eh bien, on se refuse à la fois à comprendre que c'est le vrai sujet, et d'autre part, en tirer les conclusions politiques, se mettre en ordre de bataille pour, justement, gagner cette bataille. Ça me semble être le premier grand enseignement de ces élections municipales, bien vu par Isabelle Saporta, à la fois le grand remplacement et les questions identitaires comme enjeu majeur, et polarisation croissante, mais avec, ce qu'elle ne dit pas, quand même une différence d'attitude entre ces deux pôles en voie de constitution, puisqu'en réalité, ils ne se constituent réellement qu'à gauche, tandis qu'à droite, pour des raisons d'appareil, de préséance et peut-être de respect des interdits, eh bien, on n'en prend pas acte. Or, les batailles ne se gagnent que lorsqu'on veut bien les mener, et donc c'est assez inquiétant, parce que, à mon sens, ce nouveau clivage est appelé à perdurer, il est appelé à structurer la vie politique française, et notamment la prochaine élection présidentielle. Or, si cette prochaine élection présidentielle, on voit une gauche rassemblée, qui a conscience des véritables enjeux et qui mène cette bataille-là, mais que de l'autre côté, on a une droite qui ne se constitue pas, eh bien, la bataille, à mon sens, est mal engagée. Et donc, c'est terrible parce qu'on se retrouve avec, en réalité, des électeurs qui ont bien compris, qui ont très très bien compris. Les électeurs de droite ont parfaitement compris quel était l'enjeu. Ils se déportent progressivement d'une part vers le Rassemblement national et d'autre part assez massivement aussi vers cette petite portion de la droite dite LR, incarnée désormais par Éric Ciotti, et qui, elle, a décidé de prendre en compte cet enjeu. Mais de l'autre côté, des appareils parisiens, et Bruno Retailleau pour ne pas le citer, qui se refusent toujours à vivre dans ce nouveau clivage. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble à la fois réjouissant par les mouvements électoraux de fond, celui qu'on observe chez les électeurs, et qui souhaite à droite une forte union, et d'autre part, extrêmement inquiétant de voir que les appareils, décidément, ne suivent toujours pas et empêchent cette mise en ordre de bataille de la droite sur les vrais clivages.
Est-ce que vous considérez, Xavier Van Lierde, d'aujourd'hui, que le Rassemblement national est en même temps à la hauteur de cette nouvelle position qui lui est offerte ?
Alors, je ne sais pas s'il est tout à fait à la hauteur de cette nouvelle position, mais parmi les forces politiques de droite, il est certainement celui qui est le plus à la hauteur. Et moi, ce que je constate quand même, c'est de la part du Rassemblement National une très nette évolution. C'est-à-dire que au lendemain de la présidentielle de 2017, si je ne me trompe pas, le Rassemblement National était encore dans l'illusion que le salut et la victoire passaient par la drague des électeurs de la France insoumise, par une quasi-main tendue à ces électeurs-là au second tour des élections présidentielles. Et on avait, à l'inverse, pour réagir contre cet écueil stratégique et cette non-prise en cause du réel, puisqu'en fait il s'agissait de nier ce qui était pourtant l'évidence et la raison même du RN, c'est-à-dire la prise en compte des enjeux identitaires, eh bien, la création de Reconquête, à mon avis, visait à répondre à cela, c'est-à-dire créer un parti qui soit authentiquement identitaire et authentiquement de droite, et qu'elle ait compris que pour relever ce défi des questions identitaires, eh bien, le seul salut consistait à ramener sur cette nouvelle ligne de fracture, eh bien, les anciens électeurs, voire cadres locaux, de la droite dite LR ou autre. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? À la fois Sarah Knafo ou Jordan Bardella donnent des gages de compréhension de cet enjeu. Ils comprennent extrêmement bien qu'Emmanuel Grégoire et d'autres représentent des dangers majeurs pour le pays, et ils font même de véritables sacrifices en tendant la main à cette droite LR, voire même à des éléments plus centristes, de façon à bloquer le succès des éléments les plus radicaux, les plus remplacistes, les plus favorables au grand remplacement au sein du pays. Mais c'est, l'exemple est frappant. Autant les forces nationales, le RN et jusqu'à Jordan Bardella ont cette attitude à Paris, à l'inverse, à Marseille, seconde ville de France, la réciproque n'est pas vraie, puisque sur ordre, semble-t-il, de Bruno Retailleau, voire de Gérard Larcher, le président du Sénat, eh bien, la candidate LR, elle, est sommée de se maintenir, ce qui aura pour effet immédiat et bien sûr calculé, de compliquer la tâche du candidat du Rassemblement National à Marseille, pourtant opposé à Bruno Payan. Bruno Payan, ce n'est pas un PS à l'ancienne du tout. C'est un PS déjà aligné sur LFI. Alors, certes, il ne voulait pas s'allier à M. Deleuglu, mais parce que M. Deleuglu, probablement, est simplement à d'autres casseroles que simplement la radicalité idéologique, mais surtout parce que Bruno Payan a un discours qui est déjà celui de LFI. Donc, il n'a pas nécessité de s'allier à LFI. Il est déjà parfaitement sur cette même ligne, c'est-à-dire la ligne d'une France d'après, d'une France d'après l'immigration massive, une France qui fait le jeu, une France qui il incarne une gauche qui prend acte du grand remplacement.
Ah, en même temps, est-ce que les Républicains auraient une raison d'exister en dehors de leur position défensive vis-à-vis du Rassemblement National? Puisqu'il y a quelques années ou même quelques mois, on disait encore que les Républicains étaient en train de crever.
Ben oui, mais vous voyez, les Républicains... De petites décisions comme celle-ci, en petites décisions comme celle-là, de petites trahisons des aspirations de leurs électeurs, devient peu à peu le parti croupion de la Macronie. C'est-à-dire qu'il devient le troisième pied du tabouret branlant du bloc central, alors qu'il avait une autre possibilité, eh bien, c'était de devenir un partenaire d'un grand bloc de droite, et c'est le choix qu'a fait Éric Ciotti, avec, semble-t-il, quand même un certain succès. Éric Ciotti, lui, en faisant le choix de transgresser et de se rallier à une dynamique de droite plus centrée sur les questions identitaires, de s'allier avec le Rassemblement National, est en passe d'emporter la ville de Nice. Alors, je sais que la ville de Nice a une sociologie particulière, mais en tout cas, le pari même électoral est beaucoup plus gagnant que celui de Retailleau. S'il reste une grande ville gagnable en France par la droite et quelqu'un issu des LR aujourd'hui, c'est Nice, par Ciotti en alliance avec le Rassemblement National. Partout ailleurs, les LR sont en train de disparaître.
Dans toutes les grandes villes, en tout cas. Il y a quelque chose qui est fascinant, c'est qu'évidemment, on voit bien que les LR ont fait le choix, en fait, de l'institution, ont fait le choix de, surtout de Gérard Larcher. Tout le parti n'aboutit qu'à un but, faire en sorte que Gérard Larcher soit réélu à la tête du Sénat et l'une des plus longues carrières à ce perchoir-là. Voilà, bah, très bien, c'est un choix politique comme un autre, c'est un choix de carrière comme un autre, et on peut féliciter Gérard Larcher d'être aussi intelligent. Et hier, j'avais ironisé sur son intelligence. Les intelligences artificielles ont fait en sorte de me faire amèrement regretter mon propos, puisque le fait d'avoir accusé Gérard Larcher a des impacts sur la diffusion de la vidéo, donc c'est assez amusant. Voilà, Gérard Larcher est défendu par tout ce qu'il a d'artificiel en ce moment dans les entrailles de nos machines. Et en même temps, dans ce que vous dites, on sent bien sûr que le LR a décidé de rester un parti notable, même s'il est de moins en moins notable en fait, et à tous les sens du terme. Que Laurent Jacobelli le disait ce matin, il faut bien sûr tout faire pour promouvoir toutes les alliances pour empêcher la gauche de gagner. C'est dommage que Laurent Jacobelli n'ait pas eu cette idée des alliances pour empêcher la gauche de gagner un peu plus tôt et qu'il n'ait pas fait en sorte de promouvoir ce discours en d'autres temps et pas juste au moment des élections municipales. Mais je trouve qu'il y a un mouvement que vous avez esquissé au début de votre raisonnement et sur lequel il faut revenir, c'est que cette France exclue, dont on a parlé avec Diane de Bourguedon, dont on a parlé avec Yvan Rioufol, cette France blanche, cette France rejetée dans les campagnes et dans les grandes couronnes des métropoles, c'est aussi la France qui se retire de plus en plus du jeu politique. Le taux d'abstention au municipal est moins catastrophique qu'au dernier, c'était en plein Covid, mais dans les petites communes rurales, le taux d'abstention est absolument préoccupant, donc, puisqu'on a fabriqué une loi qui était une loi antidémocratique avec l'obligation du panachage, l'obligation de la parité dans des communes où pas, tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver sur une liste électorale, et surtout l'interdiction du panachage, ce qui fait qu'on a partout des listes uniques en fait, et une grande majorité de listes uniques qui n'ont absolument pas donné envie aux électeurs de voter, et c'est là aussi une loi du système pour faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas au cœur de la nouvelle France en train d'émerger selon les vœux de LFI, soient en fait éliminés du jeu politique avec toujours cette espèce d'argument du cercle de la raison. Ah mais vous n'aviez qu'à voter si vous aviez envie que votre voix soit prise en compte, alors même qu'on fait en sorte que de ne pas pouvoir vous donner l'offre politique à laquelle vous auriez envie, de laquelle vous auriez envie.
Oui, mais c'est, enfin, je pense que c'est quand même sous l'ancienne loi électorale, les élections municipales dans les toutes petites villes et les villages n'ont jamais été très polarisées, puisque en fait l'essentiel du souci, c'est de trouver des gens qui sont d'accord pour se consacrer au service de la collectivité. C'est pas très marrant d'être maire, adjoint ou autre dans une petite ville. Déjà, c'est pas forcément marrant dans une grande ville, mais alors dans une petite ville, c'est vraiment un don de soi, et après tout, qu'il n'y ait pas le ferment de la discorde politique et des jeux d'appareil dans les petites villes, je ne sais pas si c'est si grave, si c'est pas plutôt assez sain.
Bah, ça a conduit au fait que l'abstention est encore plus forte cette année dans les petites villes qu'elle ne l'a jamais été.
Oui, mais l'abstention peut être une sécession, et je pense que c'est le cas lorsque l'offre est pléthorique et que personne ne se déplace, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a un mouvement de rejet, et l'abstention peut simplement signifier aussi, à mon avis, dans les petites villes, le fait que tout le monde est d'accord, qu'on sait que ce sera Gérard qui va continuer à la fois à s'occuper de la mairie et aussi à désenneiger les routes lorsqu'en hiver, il y a des congères. Voilà, je ne crois pas que ce soit très grave. Ce qui me semble intéressant, en revanche, c'est que ces zones-là sont des zones d'implantation croissante du vote pour le Rassemblement national, et que, évidemment, par nature, ces élections ayant été, en quelque sorte, dépolitisées, la dynamique est masqué par ce fait-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ses meilleurs scores dans les petites villes, eh bien, ce n'est pas comptabilisé à la fin des élections municipales, puisque les listes n'avaient pas d'étiquette politique, mais les gens n'en pensent pas moins. Les gens n'en pensent pas moins, et je pense qu'à l'élection présidentielle, on va se rendre compte que la dynamique du RN lors de ces municipales ne s'est pas vue, parce que précisément, elle s'exerce dans des endroits où les élections se déroulent sans candidat avec étiquette, mais que parmi ces listes, soit dites apolitiques d'intérêt local ou divers droites, il y a en réalité énormément de gens qui partagent, si ce n'est ces options, ou même à la limite qui n'ont pas un amour délirant pour l'Assemblée nationale, mais qui partagent une même vision de l'avenir de la France.
Parce que Jérôme Sainte-Marie disait qu'en fait, dans tous ces maires sans étiquette qui ont été élus en province, il y en a beaucoup qui se trouvent être des adhérents RN qui ont leur carte, donc bien évidemment, ils ne vendront pas leur nom, mais eux le savent et les identifient aussi comme tels.
Ben oui, bien évidemment, mais même, je pense que dans de larges portions du territoire, la sensibilité qui est celle du Rassemblement National devient peu ou prou comme l'air qu'on respire, en réalité. Il n'exige même plus, d'ailleurs, qu'on s'engage politiquement. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de villages, je parle pas de l'ouest de la France, mais beaucoup de villages, j'habite le Vaucluse, où c'est de l'ordre de... Voilà, c'est pas la peine d'en faire un sujet politique, tout le monde est d'accord. On est d'accord qu'on veut préserver son mode de vie et ne pas se retrouver avec les mêmes affres que ceux qu'on peut retrouver dans les grandes villes du coin. C'est peut-être le moment d'ailleurs aussi de parler de cette espèce de mythe complètement incroyable que c'est vraiment très curieux que des gens qui habitent dans des zones où il y a peu d'immigration se mettent à voter Rassemblement National et soient hostiles à l'immigration, alors que justement, ils vivent dans des zones où il n'y en a pas. Et ce serait donc la preuve que
c'est un fantasme.
Oui, que c'est un fantasme et qu'ils obéiraient à des préjugés racistes, alors que on le voit dans les zones où il y a beaucoup d'immigrés, eh bien, c'est le contraire, il n'y a pas de vote Rassemblement National. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, c'est magnifique, on ne vote pas RN, parce qu'en réalité, on sait que c'est vachement sympa de cohabiter avec des populations immigrées nombreuses. Alors, je pense que c'est de l'ordre de l'évidence pour nos auditeurs, mais on va quand même le rappeler. En réalité, ça se passe en trois temps, et c'est ce que les gens comprennent très très bien. Dans un premier temps, eh bien... il y a de très faibles proportions de population immigrée et ça se passe plutôt bien parce qu'en réalité les Français ne sont pas racistes et que donc qu'il y ait une minorité non tendanciellement appelée à devenir majoritaire et non revancharde et non agressive parmi la population, ça ne pose de problème à personne. Ensuite, dans un second temps, eh bien, cette proportion a tendance à croître et elle modifie jusqu'au paysage quotidien et crée donc évidemment un sentiment qu'il y a une forme de conquête et c'est généralement effectivement le cas, conquête culturelle, spatiale, et c'est durant cette phase-là que les scores du FN autrefois ou du Rassemblement National ont tendance à croître. Et ensuite, dans un troisième temps, si ces votes n'ont pas été assez puissants pour arrêter le phénomène de conquête, eh bien, la conquête s'accomplit, les gens sont chassés de leur propre quartier, de leur ville d'origine, et il n'y a plus quasiment que des immigrés, et dans ce cas-là, évidemment, les scores du Rassemblement National s'effondrent. Et on peut le démontrer par, justement, l'histoire de la Seine-Saint-Denis, qui dans les années 80, figurez-vous, et 90, étaient les bastions du FN. En 1988, je crois que... le Jean-Marie Le Pen fait quelque chose comme 20% en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le Rassemblement National a disparu de Seine-Saint-Denis, mais tout simplement parce que les Français de souche ont disparu de Seine-Saint-Denis. Et ça nous mène à
plus d'un tiers de la population de Seine-Saint-Denis est étrangère, et donc n'a même pas le droit de voter. Donc le maire de Seine-Saint-Denis s'est fait élire avec 10% de la population.
Oui, de la population, mais pas des... Oui, mais c'est ça. Plus des... Enfin, effectivement, voilà, enfin, vous l'avez très bien dit. Et donc, ça nous pousse à passer à cet aspect spatial, quand même, qui est très frappant aussi dans ces élections municipales, puisqu'on a à la
en
fois...
En 10 secondes, Xavier Van Lierde, pardon.
Ah, en 10 secondes. Alors l'aspect spatial, c'est très simple. On a vu que les grandes villes étaient à peu près perdues, sauf sociologie particulière dans le sud de la France. Les grandes villes sont à peu près perdues pour la droite, parce qu'en fait, les grandes villes, là, ce sont les villes de la qui persistent à être dans la mondialisation heureuse. Elles sont connectées à l'ensemble des autres métropoles du monde, et tout se passe bien. D'ailleurs, il y a assez peu, malgré tout, en proportion, dans ces grandes villes-là, assez peu de population immigrée, et ça va. Ensuite, il y a les anciennes banlieues rouges où le remplacement est effectif, et donc là, c'est du LFI plein pot, puisque c'est cette nouvelle France en train d'émerger. Et puis, il y a la troisième couronne, et la troisième couronne, c'est le lieu de relégation des anciennes classes populaires, chassées à la fois des centres par la gentrification et la montée des loyers, et des anciennes banlieues rouges, où ils sont chassés par le remplacement de population, le changement de culture et de cadre de vie, l'insécurité et autres joyeusetés associées à l'immigration, qui se retrouvent donc dans cette troisième couronne, relégués loin des centres-villes, loin des services publics, loin des facultés, loin de tout ce que l'on prétend qu'il manque aux immigrés dans les banlieues proches, et qui, eux, bien évidemment, votent à fond pour le Rassemblement national. C'est ce qu'on pourra appeler la France des déplacés.
Merci Xavier Van Lierde pour cette analyse. Et puis, second tour dimanche, donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter à nouveau avec vous mercredi prochain. Merci beaucoup.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on continue avec la chronique d'Éric Doutrebente. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bon, je rappelle que vous êtes le fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Alors, dans un marché français qui a reculé de près de 10% depuis l'attaque en Iran, pourquoi s'intéresser à une valeur moyenne française ID Logistics ?
Alors d'abord, c'est un champion français et donc ça sera assez positif pour nos auditeurs. Ce champion français de la logistique, ID Logistics a été fondé en 2001 par son actuel dirigeant Eric Aymard et qui évidemment qui a plus de 50% du capital, donc c'est une valeur familiale. Cette entreprise est devenue une référence mondiale sur un marché de niche qui est la logistique contractuelle. Contrairement aux transporteurs classiques, leur métier est de gérer des entrepôts dédiés et complexes pour le compte de grands groupes avec un modèle asset light, c'est-à-dire qu'ils privilégient l'expertise humaine et technologique plutôt que de posséder des murs. Alors on a une société qui a une expansion mondiale fulgurante. En seulement 24 ans, ID Logistics est passé d'un acteur français à une puissance internationale présente dans 19 pays. Cette réussite repose sur une stratégie simple, accompagner ses clients locaux dans leurs filiales à l'étranger, ce qui représente 50% des nouveaux contrats et évidemment réaliser des acquisitions ciblées. Aujourd'hui, c'est un géant qui gère 450 sites, soit plus de 10 millions de mètres carrés d'entrepôts, portés par 55 000 collaborateurs. Pour 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 3,7 milliards, en croissance de 15%, illustrant un changement d'échelle impressionnant. Ce qui fait la force d'ID Logistics, c'est la diversification sectorielle de ses clients. Le groupe sert des leaders mondiaux comme Amazon pour l'e-commerce, Dior pour le luxe, Leroy Merlin pour le bricolage ou encore Nespresso. Cette variété de clients dans la grande distribution et le retail rend l'entreprise particulièrement résiliente face au cycle économique et aux événements géopolitiques. Quand un secteur ralentit, un autre comme l'e-commerce, qui représente 25% du chiffre d'affaires, prend souvent le relais. L'autre force d'ID Logistics, c'est sa flexibilité face aux géants. Le marché logistique contractuel pèse à peu près 300 milliards d'euros par an. C'est un secteur très fragmenté où les 10 plus gros acteurs ne détiennent que 22% de parts de marché. Dans cet environnement, être ce qu'on appelle un pure player, donc ça va une activité unique comme ID Logistics, c'est un avantage compétitif majeur. Contrairement aux mastodontes comme DHL, le leader mondial, UPS ou Geodis, ID Logistics conserve une flexibilité et une réactivité qui lui permet de croître plus vite que la moyenne du secteur. Et justement, dans le marché de la logistique contractuelle, Il a cru de 5% par an depuis 2010 et cette dynamique va s'accélérer pour atteindre 6 à 7% de croissance annuelle d'ici 2030. Pourquoi ? Parce que le métier devient de plus en plus complexe. Les entreprises préfèrent externaliser leur logistique pour bénéficier d'un savoir-faire pointu, réduire les coûts et se concentrer sur leur cœur de métier. C'est un courant porteur sur lequel ID Logistique surfe avec brio.
Et alors, Pardon, je vous ai coupé, Eric, d'autre compte. Quelle est la performance boursière de cette pépite ?
Alors, en parlant de succès, l'actualité récente d'ID Logistique est vraiment bouillonnante. Il y a des contrats majeurs qui ont été signés avec Dior, Parfum, La Redoute ou PepsiCo. Mais du côté de la bourse, eh bien, le côté investisseur est exemplaire. Depuis l'introduction en bourse, l'action a affiché une performance annuelle de 21%, portée par une exécution sans faille et surtout très au-dessus de la concurrence en termes de performance, aussi bien financière qu'économique. Alors plus récemment, le cours a baissé de 25% depuis ses plus hauts. C'est paradoxalement dû à son récent succès avec l'accélération de nouveaux contrats qui crée des coûts de démarrage. Quand vous avez des nouveaux clients, eh bien, il y a des coûts de démarrage dans ce métier qui pèsent temporairement sur les marges et sur la génération de trésorerie. Ce qu'on appelle la courbe en J dans le jargon du métier. À ce sujet, sont venues s'ajouter des craintes autour de l'intelligence artificielle, comme dans tous les métiers, qui sont totalement infondées. Alors, pas comme dans tous les métiers, puisque là, c'est infondé pour ID Logistique. L'IA qui permettra d'optimiser les flux de données, mais elle ne remplacera pas évidemment la gestion des colis, donc l'aspect physique. Au contraire, ID Logistique utilise ces technologies pour renforcer son efficacité sur le terrain et cette baisse récente est une véritable opportunité. En fin de compte, en résumé, ID Logistique, c'est une affaire de croissance agile, résiliente et magnifiquement gérée par Eric Aymar qui a introduit la société en 2012 à 21 euros et aujourd'hui la société, 12 ans après, cote 321, mais il ne faut pas oublier que le plus haut est aux environs de 450. Donc c'est une société de grande qualité, surtout gérée par un homme et une équipe d'exception, puisque vous savez très bien que la richesse n'est faite que d'hommes.
C'est ça, et on termine sur ces mots. Merci Eric Doutrebonte, et puis on se réjouit toujours de ce genre de succès français. Merci, et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Belle phrase de Jean Bodin, bien sûr. Bonjour les Zlotes.
Bonjour Gilles.
Bonjour Gilles.
Bonjour Franck. Et bonjour chers auditeurs.
Hier avait lieu l'hommage de la France à Arnaud Frion, mort donc pour la France jeudi dernier.
Oui, repose en paix, homme de fer et d'acier. Arnaud Frion, écrit François Dorcival dans Valeurs Actuelles, s'était engagé en décembre 2004 comme grenadier-voltigeur au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Il allait y passer 13 ans pour acquérir toute sa formation militaire. Lui qui a passé beaucoup de temps dans plusieurs pays d'Afrique, en Irak ou en Afghanistan, opéré auprès de son unité, le 7e bataillon de chasseurs alpins, au cœur de son groupement commando de montagne. Et c'est au plus près de ces chasseurs talentueux, continue François Dorcival, qu'il est tombé jeudi dernier, le 12 mars. Un drone iranien l'a tué dans son camp d'entraînement. Au nord de l'Irak, non loin de sa frontière avec l'Iran. 6 de ses camarades allaient être grièvement blessés par un autre engin explosif au cours de la même tentative opérée par des bandes de terroristes commandées depuis le pays des Mollahs. Et François Dorcival interroge le président de la République. Quelle signification allait-il attribuer aux tirs de drones dirigés par divers mollahs et autres tireurs que nos états-majors situés au-delà de la frontière de l'Iran, là où nous voulions tenter de ramener le calme, si ce n'est peut-être la paix ? Notre présence n'aurait aucun sens si l'on ne pouvait y obtenir ni l'un ni l'autre.
Et pendant ce temps, la bataille de Paris s'est à nouveau réengagée hier soir.
Eh oui, hier, alors avec la décision courageuse, élégante, pleine de panache de Sarah Knafo de se retirer du jeu pour chasser la gauche de la mairie de Paris sans hésitation et laisser seuls Rachida Dati et ses nouveaux colistiers issus de la liste de Pierre Yves Bournazel affronter Emmanuel Grégoire. Dans l'entretien qu'elle donne aux Parisiens, Sarah Knafo est claire. J'appelle mes électeurs à chasser la gauche de la mairie de Paris sans hésitation. Je leur dis, si Rachida Dati est élue dimanche, Ce sera grâce à vous et ce sera à vous qu'elle le devra. Il faut donc qu'elle entende le désir qu'ils ont exprimé dans les urnes. Ce qui est certain, c'est que le socialisme ne passera pas par moi. Alors sur le papier, leur victoire est possible, écrit Guillaume Tabar dans son éditorial du Figaro. L'insoumise Sophia Chikirou, maintenant c'est les listes, les 47,2 cumulés du trio séparé Dati, Bournazel, Knafo dépasse largement les 37,98 du quatuor uni Grégoire, Béliard, Brossa, Simonet. Mais cela suppose que chacun y mette du sien. L'offre était plurielle au premier tour. Personne ne peut se satisfaire à 100% du compromis du second. Il peut substituer des rancœurs d'appareils et des déceptions de militants, mais les électeurs se soucient rarement des calculs d'état-major. La question est de savoir si la majorité électorale qui s'est exprimée dimanche dernier pour une alternance à Paris se traduira dimanche prochain par une majorité politique. Alors de son côté, Emmanuel Grégoire dramatise la situation en déclarant à Libération « Je le dis avec beaucoup de gravité, nous devons empêcher le pire, et le pire commencerait par la victoire de Rachida Dati grâce au soutien de l'extrême droite. » Alors on se demande qu'est-ce que ce serait si Rachida Dati avait accepté Sarah Knafo sur sa liste. En fait, il a une attitude d'homme blessé, vexé que Sarah Knafo se soit désistée, et de toute façon, de façon idéologique, il continue à penser qu'elle est d'extrême droite, et cela, il ne le supporte pas. Il parle même de faute morale. Concernant Dati, il conclut « Comme s'il flippait, j'espère qu'elle sera très lourdement sanctionnée par les électeurs dimanche, y compris ceux de la droite républicaine, gaulliste et parisienne. » On a envie de lui rétorquer, cause toujours.
Ouais. Et l'opinion a fait les comptes.
Oui, voilà ce qu'écrit Antoine Oberdoff. En dehors de quelques cas particuliers comme Bière dans l'Ariège, 300 habitants, ou Agen, A-J-A-I-N, dans la Creuse, 1000 habitants, la carte insoumise regorge de zones blanches. Résultat, LFI n'arrive en tête que dans 5 communes sur 35 000 que compte le pays. À titre de comparaison, LR fait figure de favori dans 133 villes, le PS dans 80 et le RN dans 59. Problème, dans la Nouvelle-France, entre guillemets, l'abstention concerne toujours plus d'un électeur sur deux. Le fameux quatrième bloc, cette armée de réserve abstentionniste censée voler au secours de Jean-Luc Mélenchon en cas de second tour face au RN, demeure introuvable.
Et ce mercredi sort le film événement Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli qui dure 3h15 quand
oui,
même.
Ben oui, alors vous savez, Xavier Giannoli, c'est celui qui avait tournée Illusion perdue, d'après le roman de Balzac. Alors là, c'est l'histoire de Jean Luchaire, hein, fusillé à la Libération pour fait de collaboration, vu par sa fille, Corinne. Alors, il est incarné par Jean Dujardin. L'affaire n'était pas mince, écrit Éric Neuve dans le Figaro. Le réalisateur s'en tire avec une assurance et un brio peu courant. Et dans les années 30, Luchaire était pacifiste. Avec son ami Otto Abetz, qui deviendra l'ambassadeur du Reich à Paris, leur slogan était « Plus jamais ça ». Alors on a vu ce que cela a donné. L'Europe s'enlise, les patries s'effondrent, la guerre éclate. Luchaire à la tête du quotidien, les temps nouveaux, s'acoquine avec les Allemands. Et dans un entretien avec Étienne Sorin, toujours dans le Figaro, Xavier Giannoli confie « Ce n'est pas un collabo viscéral, un antisémite de toujours, mais un homme qui se trompe. Je voulais montrer tous les mécanismes de la compromission, l'argent, la reconnaissance sociale, l'illusion du pouvoir, le besoin d'exister dans les salons, l'opportunisme. » Avec son physique d'avant-guerre, ses cheveux gominés, Jean Dujardin est parfait. Peu soucieux de la mode, le cinéaste explore l'univers trouble de la conscience, son d'une âme corrompue, adresse un clin d'œil à Monsieur Klein, écrit Éric Neuhoff, qui ajoute « Le mystère demeure ». Le film paraît sans date, il a déjà la patine d'un classique. Donc le vrai, le film dure 3h15 et utilise des archives dans sa narration. Les rayons et les ombres est un opéra, s'enflamme Xavier Giannoli, avec une ambition wagnérienne par la durée et la démesure. Et puis je vais terminer cette chronique.
Au moins il est content de lui, Xavier Giannoli.
Oui, ça c'est sûr. Mais de la vie générale, c'est quand même un bon film. Bon alors... Ouais. Un mot quand même sur Boualem Sansal, qui d'ailleurs sera l'invité à 18h de l'école de journalisme, le SJ Paris, et qui verra son amphithéâtre à son nom. Alors il s'explique sur son départ de Gallimard, dans une tribune sur lemonde.fr relayée par Le Parisien. « La divergence qui explique aujourd'hui mon départ est née pendant ma détention en Algérie. Antoine Gallimard a privilégié pour me défendre une démarche diplomatique que je comprends et respecte, mais elle ne correspond pas à la ligne de résistance que je vais fermement assumer face au régime violent et cruel d'Abdelmalid, je n'arrive jamais à le prononcer, Tebboune. Et il explique que son prochain livre de combat et de résistance ne pouvait être publié que dans une maison qui partage cette ligne, d'où son passage chez Grasset. On lira aussi une tribune pas très très sympathique de Laclaftine, qui est son éditeur chez Gallimard dans Libération, que je ne préfère même pas citer.
Bon, vous avez raison. Bon, après, si on aime bien, on aime bien citer les
oui, il faut. Mais bon. Il faut lire. Voilà.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette revue de presse. Et puis, pas de zone libre aujourd'hui, à moins que vous vouliez nous entretenir en 10 secondes. Mais voilà.
Non, mais écoutez, je vous dis simplement à demain. Demain, nous serons jeudi. J'ai une pensée pour... j'ai une pensée pour un homme qui vient de disparaître, qui est Andreas Mavromatis, un grand chef étoilé d'origine chypriote, qui était un ami et qui vient de mourir. Crise cardiaque. Et voilà, j'ai une pensée pour lui. Il y aura sa messe demain.
On a une pensée pour lui aussi, voilà. Gilles.
Merci.
Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur YouTube et sur X. C'est toujours un plaisir de pouvoir être avec vous le matin entre 7 et 10 heures. La radio, ça continue toute la journée sur rc.fr ou la bande FM. Si vous voulez pouvoir continuer à nous écouter et puis surtout rejoindre les nombreux donateurs de Radio Courtoisie, eh bien, Franck vous donne les adresses où faire vos dons.
Voilà, je suis un peu le facteur de Radio Courtoisie, ou le quêteur plutôt. Pour payer par chèque, vous pouvez faire un don en envoyant un chèque libellé à l'ordre de Radio Courtoisie au 61 boulevard Murat ou par courrier électronique soutenir.rc.fr. C'est l'adresse de page de don, vous verrez, elle est très facile à utiliser, soutenir.rc.fr. Je vous remercie d'avance.
Merci d'avance, chers auditeurs, et puis merci encore une fois aux nombreux donateurs qui sont déjà à nos côtés. Pour le moment, on parle du Liban, les milliers de victimes de Tsahal. C'est avec Benjamin Blanchard.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous recevons Benjamin Blanchard à nouveau. Bonjour et merci d'être avec nous, Benjamin.
Bonjour, Liselotte Dutreuil.
Vous êtes directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient, on le rappelle, mais bon, les auditeurs le savent bien. Et puis aussi patron d'émission sur Radio Courtoisie. On va parler du Liban avec vous, évidemment, et à nouveau, puisqu'on suit de près la situation là-bas. Avant cela, est-ce que vous voulez réagir peut-être aux déclarations justement de Joe Kent dont Julie vient de nous parler, puisque c'est un rapport direct avec cette crise qui nous occupe?
Oui, je crois que c'est très intéressant de citer les propos exacts de Monsieur Kent, et je pense que les auditeurs ont pu bien se faire une idée. Et pourtant, j'ai lu ce matin, avant de venir, la réaction de Monsieur McConnell, qui était le chef du groupe républicain au Sénat pendant de très longtemps, qui est toujours sénateur, et qui a qualifié cette lettre, évidemment, je vous le donne en mille, d'antisémite.
C'est une accusation que vous connaissez bien vous aussi, et surtout en ce moment, je crois, Benjamin Blanchard. C'est assez amusant parce que en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un discours qui a été proposé dans ce conflit, et toute personne qui s'en écarte, comme Israël y est mêlé, eh bien, est automatiquement taxée d'antisémite. Bon, en l'occurrence, on va essayer quand même de se rapporter aux faits et de ne pas tomber dans des guerres de discours. La situation au Liban, donc, on en est à quasiment 1500 blessés, voilà, beaucoup de morts, dont des enfants, je crois qu'on est bientôt à 1000 morts, 1 million de déplacés, et pourtant, les coups continuent de tomber sur le Liban de la part d'Israël, donc notamment dans le sud Liban que vous connaissez bien, Benjamin Blanchard, avec Israël qui réaffirme sa volonté de prendre possession, au moins pour orchestrer, voilà, la vie de cette zone du sud Liban. Quelle est en ce moment l'actualité sur place? Comment se déroulent les opérations?
Alors, selon les chiffres du ministère de la Santé libanais, les chiffres d'hier, donc on est déjà à 1 049 328 déplacés, pardon, dont à peu près 132 000 sont dans des centres d'accueil collectifs, c'est-à-dire que tous les autres n'ont pas de centre d'accueil, soit ils sont dans des familles, soit ils sont dans la rue, etc. Et puis déjà 2141 blessés et 886 morts. Bon, j'ai pas les chiffres des enfants pour les enfants aujourd'hui, mais on a largement dépassé les 100 enfants morts. Donc voilà, des chiffres extrêmement lourds, 1 million de déplacés. Je rappelle que le Liban, c'est maximum 6 millions d'habitants, donc le pourcentage de la population qui est déplacée est extrêmement fort. Et ça risque de durer, puisque les hauts responsables israéliens, notamment le chef d'état-major, ont déclaré que les gens ne retourneraient pas chez eux puisque le Liban allait être occupé au sud de la rivière Litani
D'ailleurs, est-ce que ça se limitera à la rivière Litanie ou plus au nord, puisqu'il y a aussi un ordre d'évacuation jusqu'à une rivière qui est au sud de Sidon. On ne sait pas. Hein, donc oui, la situation est extrêmement grave. Et ce que je trouve incroyable, c'est que je n'entends aucune voix diplomatique, notamment dans les pays membres de l'Union européenne, demander à Israël un peu fermement de cesser et de ne pas envahir le Liban et de cesser leurs bombardements intensifs.
Oui. Alors que les mêmes poussaient des cris d'orfraie au moment où la Russie expliquait qu'elle allait occuper des territoires ukrainiens. On est un peu dans le même cas de figure et pourtant pas du tout la même réaction. En droit international, il y a énormément de notions qui ont été bafouées. C'est Pierre Conessa qui en listait beaucoup, et donc vous étiez avec lui la dernière fois en plateau, notamment sur l'utilisation de certaines armes. Là, on a quand même une puissance qui explique annexer une partie d'un territoire voisin. Comment est-ce qu'encore une fois, ils peuvent justifier cela? On a compris qu'il y avait la lutte contre le Hezbollah. Enfin, on connaît Israël, on connaît leur force de frappe, d'autant plus appuyée par les États-Unis. On sait qu'en termes de frappe ciblée, ils ont toutes les capacités du monde. Donc pourquoi ne pas se contenter justement de frappe ciblée
Oui, alors évidemment, le Hezbollah à bon dos, je pense qu'il pourrait aller... d'ailleurs, on lit, hein, je lis dans la rue israélienne, certains qui appellent à lancer une bombe atomique sur le Liban. Hein, j'entendais ce matin une jeune dame interrogée qui disait « Oui, il faut tous les tuer par une bombe atomique. » En fait, jusqu'où ça va aller dans la justification par le Hezbollah de faire tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment très très grave. Et y compris dans les hauts responsables israéliens, hein, les propos sont de plus en plus radicaux. Bien sûr, certains parlent de colonisation, certains parlent occupation, bien sûr, mais colonisation, c'est un mot qui revient très souvent. Et j'entendais hier au Parlement israélien le président de la commission intérieure des affaires. Qui parlait de souhaiter l'implantation juive au Liban et en Syrie.
Ouais, et enfin voilà, encore une fois, on comprend pas trop ce que ça a à voir avec l'Iran. Est-ce qu'il donne des explications au moins géopolitiques à ces affirmations, Benjamin Blanchard?
Alors, je cite ce monsieur Itzhak Kreuzer, donc, qui est président de la commission de l'intérieur et de la protection de l'environnement à la Knesset, et donc qui appelait à l'établissement de colonies juives en Syrie et au Liban. Et donc oui, pour lui, c'est au nom de la protection de la survie d'Israël, parce qu'Israël est toujours menacé de mort. Et puis aussi, il y a un aspect biblique qui rentre en ligne de compte, puisque notamment ce député, mais aussi certains ministres, etc., sont membres de partis qu'on appelle kahanistes, du nom d'un rabbin du XXe siècle, qui qui prône l'application de la Bible pour définir les frontières d'Israël. Et c'est ce qu'on a entendu récemment, et notamment le fameux entretien de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui était interrogé par Tucker Carlson et qui a dit « Oui, c'est vrai, Israël a vocation à aller de l'Égypte à l'Euphrate. » Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment chez les membres de ces deux partis kahanistes, donc notamment le parti sioniste religieux de Monsieur Bezalel Smotrich, qui est quand même ministre des Finances, excusez du peu, et dont c'est ouvertement le programme de créer un grand Israël, donc qui occuperait une partie le Sinaï en Égypte, le Liban, une partie de la Syrie, de la Jordanie, de l'Irak, et même de l'Arabie Saoudite, une partie. Les voisins doivent apprécier.
Oui, en tout cas, ça paraît. Enfin, le projet semble apparaître de façon assez claire. On a vu lundi donc la volonté d'Israël de déployer des troupes au sol, des soldats en dehors des zones qui avaient déjà été conquises. Comment est-ce que ça va se passer pour la population ? On imagine qu'il y a déjà beaucoup de Libanais qui sont partis, mais sur place concrètement, quand les Libanais se retrouvent à ce genre de troupes, comment est-ce que ça se déroule ? Est-ce que vous avez certaines craintes, Benjamin Blanchard ?
Bah, la crainte principale, c'est déjà que les gens ne puissent pas revenir chez eux. Et bon, ça a été encore affirmé par les responsables israéliens. Et puis, on voit déjà les premières images de pillage par l'armée israélienne. Et y compris les mises en scène sur les réseaux sociaux en se moquant de ce qu'ils trouvent dans les maisons, en se moquant des photos de famille, etc., en utilisant les habits pour se grimer, quoi. C'est vraiment lamentable pour une armée prétendument la plus morale du monde. Ça ne laisse pas de surprendre à chaque fois. Et puis, bien sûr, il faut parler du million de déplacés, de ses conséquences. Hein. Ce sont des gens qui ont tout perdu, je rappelle. Et puis, ce n'est pas la première fois. Ils sont déjà partis de chez eux il y a un an et demi, pendant la guerre de 2024. Et puis, il y avait déjà eu la guerre en 2006. Ça n'arrête pas, en fait. Donc, c'est vraiment infernal. Et donc, avec SOS Chrétien d'Orient, nous essayons de venir en aide à tous ces déplacés qui sont vraiment livrés à eux-mêmes et de venir en aide aux communautés, notamment aux communautés religieuses chrétiennes, qui accueillent tous ces déplacés. Donc, ces derniers jours, notamment, nous avons fait des donations, notamment au monastère Saint-Sauveur de Jounes. Ce sont que des exemples que je cite, mais avec notamment des donations de conserves alimentaires, de produits hygiéniques, de condiments, de couettes et d'oreillers. Également, on prépare des repas et on distribue des repas dans des centres d'accueil à Damas avec la fondation Albert Nassar. Et puis également à Jézine, donc dans le sud, on remet en place une clinique mobile, donc ce que nous avions déjà fait pendant la précédente guerre en 2024. Et donc là, c'est de nouveau le cas, puisque Jézine est vraiment inondée de déplacés qui n'ont pas d'accès aux soins. Et puis aussi, ces jours, les jours qui viennent, nous allons à Tyr, donc à l'extrême sud du Liban, où nous allons donner des colis alimentaires à plus de 250 familles à l'archevêché grec catholique. Puisqu'en fait, tout le monde n'est pas parti, même si Tyr fait partie de la zone qui doit être évacuée, tout le monde n'est pas parti, puisque justement les gens ont peur des pillages, ont peur de ne pas retrouver leur maison, leur terre, donc certains souhaitent rester, notamment des chrétiens.
Oui. Vous nous l'aviez expliqué, la réalité c'est qu'une fois que les villages sont vidés, ensuite généralement ils sont rasés, donc effectivement c'est pas juste un départ temporaire, il faut tout quitter en se disant qu'on reviendra peut-être sur un champ de ruines, ça doit pas être évident.
Rasés et puis ensuite les champs aspergés de phosphore pour être sûr qu'ils ne puissent pas être cultivés dans un avenir proche, là aussi... Je ne sais pas si c'est une guerre morale, mais quand on se part de tel titre, c'est assez cocasse.
Curieux de savoir ce qu'en dit le droit international, là encore. La France a proposé de jouer les médiateurs dans ce conflit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait être à la hauteur de cette guerre, en tout cas pour améliorer la situation au Liban, Benjamin Blanchard ?
Alors déjà, je me réjouis que la France ait une position modérée, n'ait pas suivi les États-Unis dans leur folie guerrière. Donc ça, réjouissons-nous-en. C'est extrêmement hésitant. On est toujours dans le « en même temps ». Et je regrette que la France n'ait pas une position plus claire, comme a pu l'avoir la France il y a une vingtaine d'années, lors de la guerre en Irak avec Jacques Chirac. Ou même comme l'avait Jacques Chirac envers Israël quand il s'agissait de dire non à certaines actions d'Israël, ou plus récemment comme l'ont l'Espagne ou la Belgique, et pourtant la Belgique c'est un gouvernement plutôt conservateur qui est là, et pourtant ils ont su dire non aux menées américaines et israéliennes, donc c'est ce que j'attendrais de la France.
Est-ce que vous pensez que après les dernières déclarations de Joe Kent, on pourrait avoir peut-être un repositionnement de la part des États-Unis qui aurait une influence donc évidemment sur toute la zone et y compris le Liban, ou est-ce qu'a priori de toute façon, vu comme c'est engagé, parce qu'on le sait, a priori le conflit durerait encore au moins un mois selon les déclarations des uns et des autres, et donc on imagine que tant que le conflit entre Israël et l'Iran brûle, c'est loin de se terminer pour le Liban.
Oui, alors ça ne cesse de se prolonger, hein, puisqu'au début, le président américain nous parlait de quelques jours, après 4 semaines, et puis là, ça fait déjà presque 2 semaines, et on nous parle encore de 4 semaines. Je crois que, c'est les dires même du président américain, hein, il ne s'attendait pas à ce que les Iraniens soient si coriaces, mais je suis surpris quand même d'entendre aussi qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran frappe les bases américaines dans les pays voisins. Pardon, mais qu'attendait-il que les Iraniens disent merci, frappez-nous encore. C'est...
D'autant plus que l'argument initial, c'est ils sont une menace pour les États-Unis. Donc, s'ils sont une menace, c'est qu'a priori, ils ont capacité au moins de riposter.
Oui, tout est très incohérent. Et puis, c'est pour détruire leur arsenal nucléaire, le même arsenal nucléaire qui est censé avoir été entièrement détruit il y a 9 mois, lors de la précédente guerre contre l'Iran, la guerre des 12 jours. Et donc, que Donald Trump avait conclu en arrêtant les frappes, en disant, mais voilà, l'arsenal nucléaire est complètement détruit, obliterate, avait-il dit. Alors, je ne sais pas, en 9 mois, ils ont tout reconstruit, etc. Bon, moi, je crains que ça ne se termine comme la guerre d'Irak, où, avec la, souvenez-vous, les petites fioles du secrétaire d'État américain Colin Powell au Conseil de sécurité de l'ONU, qui tout ça s'avérait être du pipeau. Remarquez, cette fois, ils n'ont même pas pris la peine de convoquer le Conseil de sécurité. Mais non, tout cela est très inquiétant. Et je crains que le départ de Joseph Kent ne change pas grand-chose. Hein. J'ai vu le communiqué de Madame Gabbard, qui est sa supérieure, en fait, directrice du renseignement, qui se dédouane, en fait, puisqu'il semblerait, en tout cas historiquement, elle n'a pas eu tout à fait ses positions, elle était plutôt contre les interventions extérieures, et elle se dédouane en disant c'est la décision du président, et c'est le président qui a décidé de cette guerre, etc., c'est le fait du prince. Et elle ne semble pas du tout suivre les pas de Monsieur Kent.
On verra bien comment les choses évoluent. Et on ne manquera pas de vous réinviter pour en parler, évidemment, Benjamin Blanchard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bon courage donc, pour ces missions humanitaires. Vous l'avez dit, vous allez jusqu'à la pointe du sud Liban. Donc bon courage pour tout ça, parce qu'on sait que la zone est sous le feu en ce moment. Et donc, tenez-nous au courant. À
merci,
très bientôt.
Lisette Dutreuil.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lisette Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Je vous le rappelle, la radio est financée exclusivement par ses auditeurs. C'est pour ça qu'on arrive à bien se développer puisqu'ils sont déjà nombreux à nous donner. Mais voilà, on vous invite à rejoindre l'effort de guerre pour pouvoir continuer ce développement, continuer à émettre et à vous proposer cette liberté de ton que vous n'entendez pas ailleurs.
Absolument, Liselotte et Radio Courtoisie ne vit que grâce à ceux qui l'écoutent, on le répète assez, donc maintenant le message doit être passé pour les fidèles de Ligne Droite. Cela nous permet d'éviter les ressources publicitaires, mais surtout, cela vous permet à vous aussi d'écouter des émissions différentes qu'ailleurs, et surtout sans publicité du coup. soutenir.rc.fr, faites un geste pour Radio Courtoisie en fonction de vos moyens. Je vous redonne l'adresse soutenir.rc.fr.
Merci d'avance, chers auditeurs. Et quel sera le programme du jour ?
Dans quelques instants, le 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis dans Au fil des pages de Benoît Mancheron. À midi, le libre journal des économistes et d'Olivier Mérès, Comment faire de la France un paradis fiscal. 17h, le RC Mac de Jean-Étienne Posa. 17h30, Restons courtois avec Arthur de Vatrigan aujourd'hui. 19h30, le libre journal de la résistance française. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer. Et à 23h, la soirée musicale d'Aline consacrée à Joseph Haydn.
Un beau programme. Et demain, on se retrouve au micro d'Alexandre de Galzin.
Bonne journée à tous et
à
demain.
Bonne journée.